Et lorsque le médecin revient, donc lorsque le Bouddha revient, qu'est-ce qui se passe? Ces gosses sont par terre, se roulent par terre à l'agonie. Nichiren, à ce propos, dit que l'agonie, c'est ne plus pouvoir respirer. C'est parce qu'ils ne possèdent pas la vie du chapitre « Durée de la vie » qu'ils sont à l'agonie. Donc, recevoir et croire dans les enseignements des maîtres erronés s'appelle « boire le poison ». Les êtres humains souffrent du fait de s'estimer décisionnaires, du fait de devoir se confronter aux problèmes d'argent, de famille, de maladie, de vieillesse et de mort. Les humains souffrent de cela, donc les humains sont à l'agonie de ce point de vue. Pourquoi? Parce que ils ne voient pas que leur propre existence est hors le temps. Si ces êtres lisaient le chapitre « Durée de la vie » et voyaient, donc pratiquaient, et voyaient que leur propre existence n'a pas de point de départ ni de fin, il y a plein de souffrances, il n'y avait pas d'agonie. Or, pour les humains, en général, c'est l'agonie qui est la caractéristique de leur vie, parce qu'ils se voient pris entre une naissance et une mort, donc il y a éventuellement tous les regrets, toutes les souffrances inhérentes au fait de ne pas avoir ce qu'il fallait faire, d'abandonner les autres, de plus être tout jeune, toutes ces choses. Donc l'agonie, il dit, c'est ça. C'est le fait d'avoir dans la tête des choses fausses. Donc les religions fausses, les philosophies qui sont n'importe quoi, et tout ça. Ça, le mal-être des êtres, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir respirer, l'agonie.
Ça me peut toujours arriver à ça. Ça me peut toujours arriver à ça. J'ai pratiqué ce de votre compte qu'il faut.
Oui, puis en plus, dans sa tête, elle a pensé des conneries aussi, hein, je pense. Probablement. Parce qu'en général, vous comprenez bien que, à part les souffrances physiques, qu'est-ce qu'il y a? Et les souffrances mentales. Et en général, les gens, de quoi ils souffrent? De ce qu'ils pensent. Parce qu'ils pensent des conneries. En général. Tout le temps. Hein, ça. Bon, alors. Les gens ne souffrent que de la médiocrité de leurs pensées. Et de la fausseté de leurs pensées. En outre, considérez bien que si les êtres humains, on pouvait les amener à réaliser que leur vie est immuable, n'a ni commencement ni fin, comprenez que c'est le point de départ de l'éthique individuelle. La seule manière de fonder une éthique valable pour tous les êtres, contrairement aux morales des uns et des autres, l'éthique c'est de pouvoir croire et de pouvoir voir que sa propre existence n'a ni point de départ ni de fin. C'est là le fondement de l'éthique. Et oui. C'est facile, hein, c'est pas une théorie compliquée. N'importe qui peut l'entendre.
Rien n'est compliqué.
Voilà, oui, c'est pas compliqué. Mais déjà, le fait de savoir, le fait de le rejeter, on appelle ça être ordinaire, humain, pas vivant. Le fait de le croire, c'est devenir sage ou saint. La différence, c'est croire ou ne pas croire. Ne serait-ce que croire, c'est déjà entrer dans la catégorie des sages et des saints. Eh oui. Malgré nos défauts.
C'est vrai qu'en pratiquant, moi, je sais que le fait que vraiment j'aille à fond dans des choses comme vous, là-dedans, pour à un moment donné me dire, regarder les choses selon le vue de l'hélice.
Faut que j'arrête d'être conne,
mais. Et à ce moment-là, t'as tout changé. Mais bon, il faut que, je vais passer plusieurs jours comme ça, Et en fait, après, quand tu ramènes un petit peu au bon zone, même sans faire pas mal d'années,
ça me rappelle le bouchon que je n'avais pas lu et que je n'ai pas retrouvé. Ou ni sirendipité.
C'est l'avidité, naturellement.
Dans ce bouchon, ni sirendipité, ce bouchon, j'arrive pas à le retrouver. Il disait, les êtres humains vivent leur vie comme des canards décapités.
Oui, bah, c'est
ils
ça.
Courent dans tous les sens.
Ce sont des canards décapités. Voilà. Oui, absolument.
Et ça m'avait frappé, dans ce bouchon. Ouais. Et tu me disais que tu le connaissais pas.
Non, mais l'image est parfaitement belle et juste.
On va le faire avec tout.
Non,
on
fait pas. C'est la panique, quoi. Mais je sais pas, justement, je me souviens de l'avoir étudié quand j'étais dans la
psychologie. Et Parménide qui dit, il parle des humains et il dit, de l'angoisse de leur poitrine, ils jettent devant eux une pensée errante. C'est ça, c'est le canard qui n'a pas de tête. C'est ça, les humains. Donc.
Et en plus, avec le côté éphémère, du canard décapité, parce que finalement, il ne va pas tenir longtemps.
Ça ne tient pas longtemps, l'humain, ça passe vite. Hein. Mm. 60 ans, c'est pas. Donc, alors, le bouddhisme traite du sens de la vie.
Non, je suis hors le temps, c'est excuse. C'est bien.
On y retourne avant la fin. Le bouddhisme traite du sens de la vie, problématique à laquelle nous devrions sans cesse penser. En ce monde, nombreux sont ceux qui vivent par inadvertance. Alors, j'ai regardé le dictionnaire. Nombreux sont ceux qui vivent par inadvertance. Alors, dans le dictionnaire, inadvertance, c'est un défaut d'attention. C'est-à-dire que les gens arrivent dans le monde, tout est normal. Si après ils vivent, tout est normal. Après ils vieillissent, ils sont malades, ils meurent, ils n'ont rien vu, ils ne savent pas pourquoi. Schopenhauer dit, plus l'individu est inférieur par l'intelligence, et tout lui paraît normal. Donc, plus t'es con, et plus tout est normal.
Plus t'es pas normal. Ça paraît normal d'aller t'en passer dans les stades de foot. Et
tout ça. Oui, bien sûr. Ou de prendre le RER tous les matins pour aller bosser, serrer, tout ça. C'est normal, il faut travailler pour gagner de l'argent, machin, mais donc, les gens vivent comme par inadvertance. Et tout est normal. Donc plus t'es con, et moins tu te poses des questions. Par contre, plus tu as d'intelligence, et plus tu te dis, voilà, c'est pas normal tout ça, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Oui, bien sûr, les questions essentielles. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis con comme ça? Pourquoi je vois rien? Pourquoi je comprends rien à la vie des autres? Pourquoi je comprends rien à ma femme? Pourquoi je comprends rien à mes enfants? Pourquoi j'ai cru les éduquer, et que maintenant ils sont pas du tout comme je le voulais? Pourquoi
Donc, oui, pas dans ce, ça veut dire qu'on est très intelligent.
Il y avait une chanson de Jean Ferrat comme ça qui disait qu'il aimerait être un peu con parce que justement les.
C'est plus facile.
Ouais. Je sais plus comment elle s'appelait cette chanson. Enfin, j'ai vraiment bien que vous nommer.
Aussi, donc je continue le grand patriarche.
Oui, c'est une question.
Donc il dit donc en ce monde, nombreux sont ceux qui vivent par inadvertance. Or, vivre est très important. C'est le fait d'être qui est important, la présence momentanée, selon la qualité qu'on produit.
C'est-à-dire vivre l'instant.
Non, on ne peut pas vivre l'instant, mais c'est...
Mais parce qu'il n'y a pas de continuité de vivre.
Non. L'importance du fait d'être, c'est l'acte physique. Il n'y a que l'acte physique qui soit présent. La pensée n'est jamais présente. La pensée est toujours le passé du corps. Seul le corps est le présent. Jamais la pensée n'est le présent. La pensée, c'est toujours le passé immédiat du corps dans l'environnement qui ne sont pas deux, hein, corps-environnement. Donc, vivre le présent, ce n'est pas possible. On ne peut que vivre le passé immédiat des choses réelles. Hein, encore une fois, il est dit...
Il n'y a pas d'être vivant. Voilà.
Hein, il n'y a pas d'être vivant. Parce que on ne peut que prendre acte de les choses, je pense là, mais ce n'est pas un acte. On prend conscience de... Mais c'est fini. Donc, il est dit, l'aspect réel de nos vies est situé avant le discernement.
Oui.
Voir, c'est le passé. Entendre, c'est le passé.
Même agir, c'est ce qu'on appelle agir.
Agir, c'est le passé. Par contre, comprenez bien que comme il n'y a, comme le présent est instantané, et que la vie a sa valeur dans cette présence instantanée, la seule manière de placer un acte grand dans notre existence, c'est la pratique.
C'est l'acte de
pratiquer physiquement qui est important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le corps qui soit présent. La pensée est toujours le passé du corps. En plus, quand je dis ça, c'est pas une théorie que je mets au point. Si vous observez vous-même votre pensée, vous verrez que la pensée est toujours le retard du corps.
Oui.
Même si c'est un petit retard, c'est un retard. C'est après. Juste une chose. Par exemple, mettez votre réveil demain à 4h du mat. Vous allez voir, quand ça va sonner, que vous étiez en train de penser à quelque chose. Pourquoi? Parce que le corps produit de la pensée tout le temps, même quand on n'en a pas conscience. Toujours le corps est pensé. Mais le corps est le présent et la pensée succède. Quand en pleine nuit, vous vous ouvrez un œil et vous tirez le drap sur vous parce que vous avez un peu frais, c'est le corps qui vous le dit. Vous ne faites que prendre acte toujours, hein, et ça vous pouvez le voir par vous-même, sur vous-même. Il n'y a que le corps qui soit dans le présent. La pensée, c'est toujours le passé immédiat ou lointain. Jamais la pensée n'est la pensée de l'objet présent. C'est la marque qui vient de s'enfuir, ou c'est la marque de l'objet qui vient de s'enfuir, la pensée. Mais c'est toujours le passé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je voulais...
Non, je voulais le corps pratique. Le corps, ça s'appelle l'acte, qui n'est pas vraiment un acte, mais le corps découle de la pensée.
C'est un effet. C'est un effet. Le corps est un effet.
Et vice-versa, il découle de la pensée, la pensée découle de non, il y a une espèce de... Et comme ça, en fait, tout, pensée et corps partent à la dérive, en fait, je veux dire...
Voilà.
Sans qu'on y puisse rien.
Donc, je vais y venir... Ah, donc il dit, voilà, le grand patriarche dit, à propos de la vie et de la mort, il dit, si on regarde du point de vue du bouddhisme, on verrait à propos de la vie et de la mort qu'il n'y a absolument rien de compliqué dans ces problèmes. En effet, comme on le voit, dans les dix ainsi, par exemple, lorsqu'on comprend la relation qu'il y a entre la cause-condition et l'effet et la rétribution, alors le contenu de tout ce qui touche la vie et la mort devient parfaitement explicite. Pourtant, la vie et la mort sont, dans un premier temps, des problèmes antinomiques. Celui qui vit devra immanquablement mourir. Et il rajoute, la vie et la mort sont deux choses liées l'une à l'autre. Elles sont liées et ne forment qu'un. Autrement dit, exister, c'est naître et mourir simultanément. Toujours, toujours, toujours. Qui plus est, au point de vue de l'organisme, être, c'est toujours une association de choses qui naissent et qui meurent. Donc toujours, la vie et la mort sont associées, ce n'est qu'une chose seulement. À cela, on doit pouvoir s'éveiller en pratiquant. Et pour revenir à ce que tu disais, il dit, je vais parler du point de vue de l'illusion. Là, je parle du point de vue des humains ordinaires. Il arrive fréquemment que, au sein de notre relation quotidienne avec la matière, nous agissions centrés sur notre esprit qui dirige alors notre corps. Ainsi, lorsque vous sentez une démangeaison, vous vous grattez. Dans cette situation, l'esprit dirige le corps. Ça te démange quelque part, ça te gratouille, tu lances un bras, hop, tu arrêtes la gratouille, et donc c'est ta pensée qui t'a permis de venir au secours du corps qui était gratouillé. Ou si tu mets le coude sur une plaque chauffante et que ça brûle, hop, la pensée enlève le bras pour pas que ça continue à cramer. Donc dans un sens, on peut dire que la pensée dirige le corps. Mais, en réalité, c'est toujours le corps dans le présent qui produit la pensée. Donc, en réalité, profondément,
c'est le corps.
Voilà, donc, souvent la loi disait, la pensée est en dépendance du corps, toujours. Donc, la pensée, ça provient du corps, et il se fait dans la vie usuelle que, eh bien, avec la pensée, on peut mettre un pull de plus si on a un petit frisson, on peut aller pisser si on a envie de pisser, ainsi de suite. Donc, mais... C'est humain que de croire que l'esprit dirige le corps. C'est humain. En réalité, c'est le corps et l'environnement qui dirigent la pensée.
Donc, c'est le corps du corps. Et voilà. Le corps dirige aussi l'environnement.
C'est un. Le corps et l'environnement, c'est un. Donc, le corps et l'environnement instantanés, qui ne sont pas deux, ça, c'est la présence, en tant qu'effet. Un corps et une pensée qui en découle. Ça, c'est la présence. Cette présence est absolue. Elle est inconditionnelle, elle est hors le temps. Donc à chaque instant, le corps et l'environnement, qui ne sont pas deux, font jaillir le phénomène, le corps et l'esprit. Le corps en premier lieu, dans le présent, et l'esprit qui prend note d'eux. Et c'est toujours comme ça. Il n'y a qu'en dans le fait de pratiquer que tout doucement, on s'éveille au fait qu'on n'a pas de point de départ. Mais que cela est permanent.
Le corps prend note aussi d'eux. J'arrive pas à faire la différence entre les deux corps et esprit.
En fait, c'est qu'un seulement.
C'est qu'un.
Mais, vérifiez en vous-même, vous verrez que la pensée, ça sourde à chaque instant du corps. Donc, la pensée est le passé immédiat du corps dans l'environnement. Donc, on ne peut jamais vivre l'instant. C'est une illusion.
La pensée, c'est le corps de l'impalpable. L'inverse.
Shakyamuni, voilà, donc on va. Shakyamuni dit, ô moine, vous croyez voir des formes, des corps, vous donnez des noms à ces corps, machin, il dit, mais réalisez que, en réalité, c'est l'accumulation des pensées devenues palpables. Donc, considérons le corps comme ça. le corps est l'accumulation de tout ce que nous avons été à chaque instant en termes de stabilité, de stupidité, de colère, tout ce que vous voulez. Donc, l'addition de ces pensées d'habilité, colère, machin, bien, sont maintenant le corps organisé que nous avons. Mais il n'en est pas moins vrai que l'image, l'objet de la conscience à chaque instant, sourde de la relation corps-environnement, et là on est tributaire, on ne peut pas être dans le présent jamais, jamais, jamais. Il n'y a qu'en pratiquant physiquement qu'on est dans le présent. Toujours. Et ce qui fait, bon, comment dire, souvent la loi dit que si l'on pratique, à ce moment-là, la pensée, bien que dépendante du corps, oriente réellement le corps. C'est bon, c'est vrai si on pratique. Parce que, on fait gonfler le matin, il y a des choses qui montent comme ça du corps, hein, les idées qui traversent l'esprit, machin, bidule, alors on continue à pratiquer, des idées d'angoisse, des machin, on pense à ce qu'on va manger, tout ce que vous voulez. On pratique. Mais comme, avec la pensée, on se dit, bah non, je vais quand même faire gonfler, ah bah non, je vais encore pratiquer, bah je vais faire un peu de daimoku en plus, comme ça, eh bien, c'est à ce moment-là seulement que la pensée oriente le corps, qui à la base oriente la pensée. Ouais. Mais il n'y a que lorsqu'on pratique. Si on ne pratique pas, la pensée est toujours en dépendance du corps. Le corps est toujours le présent. Quand d'un coup, cette copine, la soeur de ta copine, sent qu'elle a mal au crâne, prend des cachets d'aspirine et finit par s'effondrer dans le coma, elle ne fait que prendre note de ce que le corps lui dit. Le corps est toujours premier, la pensée découle. Si à un moment elle sombre dans le coma, c'est toujours pareil, il y a un corps qui montre quelque chose, et une pensée qui en émerge tout le temps, alors maintenant elle est phaseuse, la pensée, elle ne peut plus s'exprimer, machin, mais c'est toujours comme ça.
Et là, le corps est réellement premier.
Mais il est toujours.
Oui.
Il est toujours.
Et maintenant, on le voit premier, puisqu'il est là, en dehors de la pensée.
Voilà, donc c'est toujours comme ça.
En fait, ouais. J'ai l'impression que c'est complètement... L'un entraîne l'autre.
Le corps entraîne la pensée.
Mais là, à un moment donné...
Si on pratique. Oui, si on pratique, non, la pensée entraîne le corps.
Ce que je veux dire, c'est que le corps entraîne la pensée. Bon, par exemple, tu vas avoir des pensées à la con,
ouais.
Donc, tu pratiques pas, tu vois. Ayant des pensées à la con, je veux dire, tu vas... Ta pensée, je veux dire, à la con, va altérer, je veux dire, ton corps ressenti.
Quand
tu vas
donc...
Évidemment, parce que...
Ça va dans les deux sens.
Vous comprenez, le corps est un effet présent dans l'environnement, et la pensée en sourde à chaque instant. Instantanément, toujours il y a des pensées.
La pensée est un effet aussi.
Donc le corps est un effet, la pensée est un effet tout le temps. Ça, c'est le lot de tout ce qui vit. Par contre, on dira que une pensée momentanée en tant qu'effet est aussi cause. Donc elle surenchérit, ou elle maintient les conséquences causales. Pardon? Mais c'est toujours comme ça. Elle maintient un sillon.
C'est ça le karma.
C'est un enfant, en fait. C'est l'état de vie qui fait
que... Oui, parce que...
C'est un enfant de pensée, corps, pensée.
Parce qu'il y a l'ambiguïté de la matière et de l'esprit.
En fait, c'est pareil, c'est la même chose.
C'est la même chose. Mais comprenez que le corps est le présent, et la pensée en sourde à chaque instant. La pensée n'est que l'objet conscientiel qui vient de s'échapper immédiatement. Quand vous sentez une piqûre au bras, le corps est premier et la pensée de la piqûre arrive après.
La prise de conscience.
Oui, bien sûr, c'est une pensée momentanée. Cette une pensée momentanée est toujours l'effet du corps. Donc, quand la petite dit qu'elle flippe, c'est quoi? Parce que de son corps, qui est un état de, donc, en l'occurrence humain, mais avec la stupidité et l'avidité, de ce flux naissent des pensées tout le temps. Alors, elle passe 2 heures à s'angoisser, elle sait pas quoi faire, machin, mais elle n'est pas décisionnaire du tout. Elle est faite par... Donc je lui dis qu'il faut enculer. C'est vulgaire, mais c'est ce qui se passe. Elle n'est pas maître d'elle-même. Le mouvement des pensées arrive sans arrêt par un flux continu, comme un tissu dégueulasse qui sort du corps, et elle flippe, qu'est-ce que je vais devenir, lâche que j'ai, bon. Et toutes les conneries comme ça qui sortent, elle le subit, mais elle n'en est pas l'acteur. Shakyamuni dit, des événements se produisent dans le monde, mais il n'y a pas d'acteur. Donc, pour en revenir à ce que...
On a une illusion dans laquelle vit ce monde.
Ah, Si vous en avez marre, on arrête, hein.
Le corps est aussi forgé par la pensée.
C'est vrai, mais dans, c'est vrai.
Il y a quelqu'un qui pense comme moi, quelque part, presque ça se voit, au bout d'un moment, ça se voit.
Voilà, mais c'est parce que le corps lui impose.
Oui.
C'est parce que le corps lui impose.
D'accord, donc effectivement, à la fin.
C'est la relation. C'est toujours la relation corps-environnement instantanée qui impose la pensée.
Oui, si on prend, si on sort de l'humain, par exemple, effectivement, hein, par exemple, à la fin, il va
non,
avoir
ça,
des pensées qui sont liées à son corps.
Oui, bien sûr, et l'humain aussi.
On est prisonnier du,
on est prisonnier du corps dans sa relation à l'environnement, qui s'étend à tout. Et donc, c'est ça la conditionnalité des choses, ça change tout le temps. Mais toujours, il y a un corps, on ne peut pas être sans corps, il y aura toujours un corps, et la pensée sera toujours tributaire du corps. Bien sûr.
Quand quelqu'un compte, on lui dit que votre corps est bien.
Bien sûr. En plus, il trouvera toujours son intelligence suffisante pour gérer ses affaires.
mais en fait, si tu dis que celui-là il est bien con, je sais te dire, mais bon, c'est bon que je suis bien con aussi.
On continue.
Le jeu, c'est la pensée ou le corps. Les deux à la fois, à mon avis.
Le jeu, c'est le passé, hein, le jeu.
Ouais.
Le jeu, c'est le passé. Et la négation du reste. Bon, donc, alors, Nichiren dit, toujours à propos de Nyoseso, Nyoseso, et puis la rétribution des actes, il dit le début, l'aboutissement et le principe qui est en nous ne forment qu'une seule et même inconcevable chose. Il est donc enseigné l'égalité totale de l'origine et de la fin. Autrement dit, pour les humains ordinaires ou pour tout ce qui vit, qui ne pratique pas, leur immuabilité est permanente à travers les mêmes souffrances, les mêmes angoisses, les mêmes toujours. Il dit en outre, dès lors, pas un phénomène, même un cheveu, n'apparaît en fonction du bien ou du mal, au dehors de notre cœur et de notre corps. Tous les événements qui se produisent dans notre existence, événements qui nous sont propres, ne sont que nous-mêmes. Toujours, c'est notre corps et notre cœur qui les engendrent, toujours. Donc il dit, ceux qui entendent cette doctrine du Bouddha, il dit « Ceux qui situent cette doctrine hors d'eux-mêmes se trouvent désignés par les termes « être égarement » ou bien « homme quelconque », non vivant. Par contre, celui qui sait qu'elle s'applique à son propre corps est appelé ainsi venu, éveillé, sain ou encore sage. » Donc le fait de le savoir et de ne pas le rejeter, c'est déjà devenir sage. Le fait de pratiquer et de voir réellement sa propre existence comme étant inconditionnel et absolu, fait qu'on devient saint ou éveillé. Donc c'est pas difficile. Faut ne pas rejeter le principe et en pratiquant s'y éveiller. Voir. Croire permet de voir, en bouddhisme.
Ouais. Et entre les deux.
Il n'y a pas entre les deux. Ah si, il y a le rejet de la croyance, mais là donc c'est l'ignorance.
Sans être saint, et sens, il doit être
compris. Autant atteindre l'éveil directement, à mon avis, hein. Ne pas s'arrêter à un stade ou à un autre. Bon, on arrête maintenant, non? Vous voulez encore un petit peu, ou quoi, ou qu'est-ce?
Un petit coup.
Et je terminerai en beauté. Donc, Nichiren dit, le passé infini est l'origine, le présent est l'éphémère. Pour tout ce qui est, tout montre le passé infini. Et le présent instantané est éphémère. Ça, c'est bon pour tout ce qui est. Chaque phénomène, chaque entité, chaque vie, montre le passé infini. C'est-à-dire, en fait, est hors le temps. Et Nichiren dira aussi, la naissance, la pérennité, la transformation et l'extinction sont toutes la substance des pouvoirs transcendantaux substantiels des 3000 phénomènes. À présent, l'intention de Nichiren et des siens, s'ouvrant à l'éveil des ce corps, est ce qu'on appelle les pouvoirs transcendantaux, mystérieux et secrets du Bouddha. Ce triple corps sans artifice peut être obtenu avec un seul mot, il s'agit du mot « foi ». Ça veut dire que tout montre l'aspect de la naissance, de la disparition, de l'extinction, de la vieillesse et de la mort. Tout montre ça tout le temps. Parce que c'est comme ça. Par contre, nous, l'intention de Nichiren et des siens, nous rencontrons le bouddhisme, et bien, au sein même de ce mouvement événementiel de nos existences, en pratiquant, on fait apparaître les trois corps du Bouddha physiquement. Pourquoi ? Parce que il n'y a que le corps qui soit le présent. C'est en pratiquant Nam-myoho-renge-kyo que les trois corps du Bouddha apparaissent au sein d'une existence qui est immuable et qui charrie toujours les mêmes événements, les mêmes souffrances, les mêmes désillusions, les mêmes angoisses, les mêmes souffrances, les mêmes horreurs. Donc ça, c'est l'intention des Tirénés des siens, donc la bienveillance du Bouddha originel, et provoque l'irruption des trois corps en nous-mêmes. Ça, c'est donc ce qu'il convient de faire. Fatigué ou ça va? Allez, il y a une dernière là. Quand on arrête donc, je me serai arrêté ici. Ça veut dire que le cours, j'avais prévu encore un peu trop large. Ah. Alors ça c'est bien. Donc, Nichiren, à cette époque, il y a les Mongols qui vont attaquer, sont prêts à attaquer le Japon. Donc c'est la frayeur au Japon, parce que les Mongols sont nombreux. En plus, ils sont brutaux comme tout, et ils violent tout ce qu'ils trouvent, y compris les chats. Donc évidemment, la population est effrayée au Japon. Alors Nichiren écrit la chose suivante. Quoi qu'il en soit, la mort est inéluctable. Puisqu'on doit mourir de toute façon, abandonnez même pour un instant votre vie pour le sutra du lotus. Considérez cette offrande comme une goutte de rosée rejoignant l'océan, comme un grain de poussière retournant à la terre. Et le grand patriarche dit, à propos de comme une goutte de rosée rejoignant l'océan, comme un grain de poussière retournant à la terre, il dit que, en fait, nos petites vies et morts introduites dans l'océan, dans la terre du sutra du lotus, deviennent les immenses œuvres de vertu du Bouddha. Autrement dit, comme la mort doit de toute façon survenir, consacrer sa vie au sutra du lotus fait que nos propres morts, c'est comme l'eau qui retombe dans la mer, comme la poussière qui retombe à la terre, et ça devient les immenses œuvres de vertu du Bouddha. Donc nous agissons en produisant les œuvres de vertu du Bouddha, en abandonnant une vie que de toute façon on sait qu'on doit perdre, en pratiquant le sutra du lotus. Voilà, voilà. C'est bon? Voilà. C'est ça le Shinyoken Butsu. C'est avec le seul désir, on ne risque, on ne ménage ni le corps ni la vie, avec le seul désir de voir le Bouddha. Pourquoi? Parce que non seulement on ne veut pas échapper à la vie, au fait d'être, mais en plus on n'en est pas maître. C'est pour ça qu'il convient de faire passer en priorité l'accès à l'éveil. Et d'y mener tous les siens. Bon, bah, c'est bon, on arrête là? Bah, une dernière petite, allez. Une dernière petite. Parce qu'elle est belle, c'est le souverain de la loi qui dit ça. Grâce aux fonctions inconcevables de la loi merveilleuse, la totalité des existences du monde des phénomènes, participant de la loi merveilleuse, forme la corporéité de l'objet fondamental de vénération, exprimant l'aspect véritable existant à l'origine. Cependant, avec nos yeux et notre sagesse d'être ordinaire, même si l'on réfléchit de tout notre être, il nous est absolument impossible de parvenir à sa corporéité. Autrement dit, le Honzon que Nichiren a inscrit, c'est l'aspect réel des phénomènes, de l'infinité phénoménale, dans son état ultime dans l'éveil. Donc l'ensemble des phénomènes forment le corps du Bouddha, tel que Nichiren les a inscrits sur le Honzon. Et pour finir, le souverain de la loi dit, il est certain que l'être humain conçoit de bonnes pensées comme il en conçoit de mauvaises. Il erre dans toutes sortes d'illusions. Cependant, si sa vie est éclairée par le grand principe de Myoho-renge-kyo, alors il devient Myoho-renge-kyo, l'ainsi venu aux trois corps. Dans le fait que notre substance soit telle qu'elle, la substance de la loi merveilleuse, réside l'unicité de la personne et de la loi. Notre propre substance est la loi merveilleuse. L'identité de la personne et de la loi signifie qu'il n'y a pas de loi avant les phénomènes, qu'il n'y a pas de loi de phénomène avant la loi, donc tout est immuable. C'est ce à quoi nous devons nous éveiller avant de mourir, si possible. Mesdames et messieurs, EST. Le corps de la loi, c'est ça. Tel que le montre Nichiren là. Sinon, si on regarde, on voit l'avidité, la stupidité, la colère, mais quand même, tout ça est le corps de la loi. Hein. Tout naît et meurt à chaque instant du corps de la loi.
Donc là, c'est le corps de la loi.
Dans les veilles.
Dans l'immobilité. Quand on dit que c'est immobile.
Non, c'est éclairé, éclairé par les veilles.
Dans les veilles.
Dans les veilles.
Éclairé, Nichiren dit, éclairé par les cinq directeurs de Myrolin Gekyo, ils montrent leur véritable aspect originel. Laurent Zong, dans les
volontaires. C'est l'éclairage de
l'éveil. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et de même, quand nous pratiquons, nous, avec nos troubles, eh bien, en fait, nous inscrivons notre enfer, notre souffrance, notre avidité, notre colère, sur le Laurent Zong, c'est déjà indiqué. Mais, comment dire, du fait de Myurolin Gekyo au centre, qui correspond à l'autre rive, à la rive du Nirvana, toutes nos souffrances, tous nos troubles entrent dans ce Myurolin Gekyo central. Notre propre corps devient le onzon, en pratiquant.
Est-ce que dans le onzon, il y a la souffrance?
Il y a l'avidité, il y a la stupidité, il y a la colère.
C'est un papier, on
peut dire. Quand on est réveillé, on peut dire, on n'est pas fini. Finalement, un peu avorté.
Mais, oui. Mais encore une fois, comme on a dit au soir, la présence instantanée, c'est le rassemblement et l'achèvement d'une infinité, toujours. La présence instantanée, c'est toujours le rassemblement d'une infinité. Rassemblement qui n'est pas à notre repas, qui n'est pas autre que nous. Hein, c'est non-dualité de l'être et de l'environnement. Donc à chaque instant, c'est achevé. On est ce qu'on a toujours été à chaque instant. Mesdames et messieurs, le cours est terminé. Bonne soirée.
Merci. Ah,
j'ai fait une deux fois.
Je sais pas. Il y a pas tout le temps, en général, c'est ça. Et donc, là, il va partir en vacances, le 11, c'est pas.